Vous écoutez En profondeur à CKUT 90,3 FM et c'est le moment de la tant attendue chronique des apatrides anonymes.
tout un rendez-vous deux semaines. Hein?
Qu'est-ce qui se passe de bon, là?
Ben écoute, bonjour à vous deux, premièrement.
Ben oui, bonjour. Puis,
bonjour. Qu'est-ce qui se passe de bon? Écoute, c'est toujours la difficile question avec notre chronique. Il se passe souvent des choses un peu moins agréables, mais on aime ça les mettre en perspective puis les faire connaître. Ben aujourd'hui, on va parler un petit peu, ben c'est un peu le cas depuis plusieurs mois, des suivis, ce qui se passe en Europe avec la dite crise des migrants, migrantes. Bon, il s'est passé beaucoup de choses encore dans les dernières semaines. C'est sûr que c'est pas toujours dans le haut de l'actualité, ça dépend, bon, de la couverture médiatique, ça dépend du côté dramatique, à quel point c'est dramatique dans les nouvelles, mais il se passe toujours plein de choses quand même. Puis c'est une évolution aussi vers une logique de plus en plus difficile en Europe. On sait que la route des Balkans est fermée depuis le mois de mars, donc les gens sont bloqués en Grèce ou maintenant sont bloqués en Turquie avec l'accord entre l'Union européenne et la Turquie. Il y a quand même encore près de 10 000 personnes qui sont dans un camp à la frontière gréco-macédonienne. On en a parlé quelques fois, la ville d'Inominie. Et là, la Grèce fait vraiment accélère le rythme pour évacuer les gens de cette frontière-là, pour les ramener dans des camps, dans différents camps de réfugiés, plus ou moins improvisés, dans l'intérieur du pays, pour éventuellement les renvoyer en Turquie. Bon, puis le processus inverse, malheureusement, qui s'intensifie. Donc ça se fait surtout depuis deux semaines. Et la conséquence de la fermeture de la route des Balkans, ben, c'est que les gens recommencent à prendre la Méditerranée centrale, donc à partir de la Libye vers l'Italie, donc beaucoup plus longue traversée, beaucoup plus dangereuse, où il y a beaucoup plus de morts qui arrivent à chaque semaine. On a eu les chiffres hier de la dernière semaine, selon Médecins sans frontières, à peu près 1000 personnes sont décédées dans la dernière semaine dans trois chavirements de bateaux principalement, assez près de la Libye, donc les gens n'ont pas eu le temps de se rendre très très loin. Donc depuis une semaine, 14 000 migrants ont été secourus par les marines. Il y a eu 1000 morts, il y a eu 14 000 personnes secourues, donc 4 000 en une seule journée. Donc les chiffres sont vraiment impressionnants, sont beaucoup plus impressionnants que les chiffres dans le fond de la route entre la Turquie et la Grèce il y a quelques mois de la mer Égée, parce que évidemment il y a beaucoup plus de monde qui passe par là, beaucoup plus de gens de beaucoup plus de pays différents aussi, beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne aussi. Donc ben voilà, fait que ces différents accidents ou en tout cas catastrophes qui fait que ben les chiffres sont impressionnants et qui fait que le fait d'avoir bloqué cette fameuse route par la Grèce, par les Balkans, ben remet ça encore plus en perspective, comme quoi c'est vraiment pas la solution. Donc on s'en rend compte assez brutalement comme ça. Sinon en Europe, ben il y a d'autres plus ou moins bonnes nouvelles. L'Autriche a passé à un cheveu d'avoir un président d'extrême droite, populiste, raciste, nationaliste. Finalement c'est un écologiste qui a gagné par quelques dizaines de milliers de voix. Sauf ce qu'on a moins su, c'est que quelques semaines avant le deuxième tour de la présidentielle, l'Autriche a adopté un état d'urgence migratoire, donc une nouvelle loi assez sévère. C'était à la fin avril. Ça a été voté par le gouvernement actuel, qui est fait de sociaux-démocrates et de chrétiens conservateurs, donc coalition centre-droite-gauche, disons. Les députés de la majorité au pouvoir ont voté pour ce nouveau projet de loi qui s'enligne beaucoup sur la politique du fameux Viktor Orban, le président de la Hongrie, malheureux président de la Hongrie, qui était le plus sévère à date actuellement à l'égard des migrants, donc en Hongrie. Dans cette loi-là, attachez vos trucs, il y a quand même pas mal de stock. Donc, désormais, les réfugiés syriens, afghans ou irakiens auront un permis de séjour limité dans le temps de 3 ans. Si, après 3 ans, la situation dans leur pays d'origine est examinée, ils seront renvoyés, même s'ils ont eu statut de réfugié. Donc, ça, c'est quand même des atteintes assez importantes. Donc, si la guerre est finie, si la situation s'améliore, ils devront rentrer chez eux. Ça va être plus difficile de faire valoir leur droit à une vie maritale, plus difficile pour le recoupement familial aussi. En Autriche, pour mettre ça en perspective, il y a eu 90 000 demandes en 2015. Et depuis le début de l'année, il y en a eu 18 000, donc disons au mois d'avril. Et sinon, autre clause qui a été votée, qui est assez incroyable aussi. Donc, les réfugiés en provenance d'Italie, donc qui est le pays à côté de l'Autriche, et on vient de dire que les gens arrivent beaucoup de Libye en Italie par la Libye. Donc, le gouvernement autrichien va mettre un régime d'exception en place qui va être valable pour 2 ans afin de refouler les migrants à ses frontières s'ils sont arrivés par un autre pays sécuritaire, c'est-à-dire l'Italie. Donc, si on n'a pas fait de demande en Italie, il aurait pu la faire, ben, ils vont être envoyés. Il faudrait qu'ils arrivent en Autriche direct par les airs, j'imagine, parce que l'Autriche n'est pas sur la mer. Donc, c'est assez élevé. Puis ça, ils se gardent ça comme option s'il y a trop de monde qui arrive. Donc, puis ça, on sait que ça vise l'Italie, qui laisse en général passer les migrants vers le nord. Donc, ça vise vraiment comme à refermer cette route-là, parce qu'il faut savoir que l'Autriche est un peu à la jonction de deux routes, celle des Balkans et celle de l'Italie. Donc, il y a beaucoup de gens qui arrivent là. Donc, c'est un peu leur argument pour dire. Et puis, il faut savoir que depuis quelques mois, ils ont mis beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts pour essayer de contrôler plus les réseaux de passeurs, les frontières. Et que aussi à cause des autres pays qui ferment leurs frontières, il y a beaucoup plus de gens qui sont allés chez eux. Mais il faut savoir que dans ce projet de loi-là, il y a quand même 1,3 milliard d'euros pour l'armée et 1,1 milliard pour la police. Donc, on voit vraiment où sont les priorités pour appliquer ce régime. Donc, je rappelle le nom, qui est quand même assez un état d'urgence migratoire. Donc, c'est ça qu'on appelle en Autriche. Et ça a été dénoncé en Autriche par autant les partis plus à gauche, l'Église catholique qui est vraiment opposée à cette politique-là de fermeture. Sinon, le parti écolo aussi qui parle de facto de la fin du droit d'asile en Autriche, de façons différentes. Il va y avoir plein de plaintes dans toutes les cours possibles et imaginables. Ça va être battu éventuellement, mais ça va prendre un certain temps. Donc, c'est la situation d'un petit pays, l'Autriche, qui est au centre de l'Europe, dont on n'en a pas parlé beaucoup, et puis qui, les gens ont pensé que, oups, il n'avait pas voté pour un président d'extrême droite, mais les propres parlementaires des différents partis ont décidé de faire des mesures très, très drastiques. Donc, c'est assez rentre-dedans quand même comme situation. Ça va? Tout le monde
ça va bien, oui. J'avais demandé des bonnes nouvelles. Je sais pas c'est quoi.
Je vais sauter ça.
Bon, mais la chronique est finie, je pense.
Sinon, ben rapidement, en Europe, aux Pays-Bas, en Europe toujours, aux Pays-Bas, les députés ont voté la déchéance de nationalité pour les djihadistes binationaux, donc ceux qui se retrouvent à aller à l'extérieur du pays dans des organisations dites terroristes. Un peu, bon, ce que la France a refusé il y a quelques semaines, mais là, la Hollande l'a fait. Sinon, vous dire... on va y aller avec... attendez un instant.
Dans d'autres nouvelles, un chien a été sauvé. Oui. Tout le monde est heureux.
Pompiers,
un
arc-en-ciel
est apparu en même temps.
Ben, sinon, juste vous dire, au Canada, peut-être vous dire que... c'est pas une bonne nouvelle, mais disons que ça risque de faire des pressions. C'est que récemment, il y a eu un jugement de la Cour d'appel fédérale qui a conclu que dans certaines circonstances, la loi oblige le gouvernement à dépouiller des réfugiés de leur statut. Un peu ce que je viens de parler par rapport à l'Autriche, un peu le même lien, parce que la réforme de 2012, la fameuse réforme des conservateurs de la loi sur l'immigration, permet ça. Si dans certains cas, quelqu'un fait une demande de résidence permanente, tant que t'es réfugié, ça va, mais tu fais une demande de résidence ou de citoyenneté, et là, il y en a qui peuvent vérifier ton dossier puis dire « Ah, ben ta situation a changé, le pays d'où tu viens, ça va bien. » Ça, c'est comme une espèce de... Mais c'est pas écrit comme ça, comme ça a été voté en Autriche, mais il y a comme une espèce de possibilité à travers la loi. Et là, ben, plusieurs groupes demandent au gouvernement de fermer cette brèche-là, donc de changer la loi de 2012 pour empêcher que des situations comme ça peuvent se faire. La personne qui a perdu en cause s'appelle M. Bermudez. Lui, il se retrouvait à être marié avec une Canadienne. Ils ont eu des enfants. Et c'est lui qui soutient une famille, bon, qui travaille et tout et tout. Fait qu'il a essayé de faire valoir cet argument. Là pour dire qu'entre autres, c'est nécessaire qu'il reste ici. Mais ça, la Cour a dit non avec la nouvelle loi de 2012. On ne peut pas prendre ça comme raison. Donc, c'est quand même assez délicat. Et on dit qu'actuellement, en 2015, il y a eu 256 cas d'ouverts de remise en question du statut de réfugié au Canada. Et les conservateurs avaient mis des sommes supplémentaires et des agents supplémentaires pour vérifier ces choses-là. Donc, c'était une volonté politique de le faire. Donc, ce qui est demandé par, entre autres... le Conseil canadien pour les réfugiés et l'Association canadienne des avocats avocates en droit des réfugiés, c'est de fermer cette brèche-là, donc de réviser la loi. Donc, ça devrait se faire, j'imagine, parce que la Cour dit oui, on n'a pas le choix d'appliquer la loi, mais c'est pas logique avec la Charte des droits. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui peut se faire. Donc, on espère que ça va se faire dans les prochains mois. Parce que ça pourrait même s'appliquer aux réfugiés syriens qui arrivent en ce moment. Là, c'est à peu près absurde comme situation. Si la guerre finit, si finalement ils se retrouvent à faire une demande de résidence ou de citoyenneté, donc c'est quand même assez élevé. OK, une petite bonne nouvelle, on va y aller quand même positif. C'est quelque chose d'un peu complexe aussi. C'est le fameux projet de loi 59 sur les discours haineux au Québec du gouvernement libéral, qui a finalement été la grosse partie du projet de loi a été retirée la semaine passée sous pression des partis d'opposition, mais de plein de groupes aussi. De la société civile, comme on dit, ça portait sur l'encadrement du discours haineux. C'est un peu complexe. Ça avait été texte de lutter contre la radicalisation après ce qui était passé à Saint-Jean, à Ottawa, puis bon, les jeunes qui partaient vers la Syrie. Ça prévoyait l'interdiction de tenir ou de diffuser publiquement des discours haineux ou des discours incitant à la violence qui visent un groupe de personnes spécifiques. Sauf que ça judiciarisait beaucoup le processus, ça donnait des pouvoirs beaucoup plus importants d'enquête et d'intervention à la Commission des droits de la personne. Beaucoup de gens craignaient de fausses plaintes, craignait aussi beaucoup d'amalgame, de mélange aussi dans les choses, et de restreindre en bout de ligne la liberté d'expression au niveau à la fois de l'actualité des journalistes, au niveau des artistes. Donc, il y avait ça comme danger. C'est un peu particulier parce qu'il y a des groupes plus à droite, plus nationalistes, qui étaient contre le projet de loi parce que ça disait qu'il ne pouvait plus critiquer les religions. Puis t'as les gens qui défendaient la liberté d'expression qui disaient, ben là, on veut pas ce projet de loi-là pour trop encadrer non plus. Il y a déjà le code criminel qui encadre le discours haineux, donc pas besoin en plus d'avoir ce projet de loi-là. Puis ça a été mal dirigé par le gouvernement, ça a été mal travaillé. Fait que finalement, les pressions, en fait, qu'ils l'ont retiré. C'est sûr que beaucoup de gens disent que c'est plus par la prévention, l'éducation qu'on prévient le discours haineux, le racisme et tout, que par la judiciarisation dans ces cas-ci. Pour vous donner une idée, il y a une ancienne députée libérale qui est assez particulière, un peu alarmée, qui s'appelle Fatima Oudo-Pépin, qui avait quitté le Parti libéral sur cette question-là et qui a dit que ce projet de loi-là, une chance qui n'a pas été retenue parce qu'il protégeait l'islamisme radical et les islamistes dangereux. Donc, tout le monde réagit et prend un petit bout du projet de loi en disant c'est bon qu'il soit plus là parce qu'on l'aime pas. Mais tout ça pour dire que pour faire un débat comme ça, une discussion comme ça, il aurait fallu faire quelque chose de beaucoup plus large qu'un simple projet de loi qui a été lancé un peu rapidement dans la précipitation de l'actualité. L'autre partie du projet de loi, c'était sur les mariages forcés. Cette partie-là va rester là, dans le projet de loi. Donc, voilà. Fait que bonne nouvelle plus ou moins, mais enfin, quelque chose un peu moins.
C'est intéressant aussi de voir des acteurs autant diversifiés, là, extrême gauche, extrême droite, tout le monde pas d'accord contre quelque chose. Là, tu le sais que tu as vraiment mal fait ta job. Là, si tout le monde n'est pas d'accord.
Exactement. Non, il n'y avait à peu près personne d'accord à part le premier ministre, finalement. c'est drôle. Sinon, il me reste peu de temps, je vais faire ça rapidement. Des chiffres sont sortis. Radio-Canada est allé fait une demande d'accès à l'information, savoir combien de demandeurs d'asile ont été refoulés ou filtré pour pas rentrer au Canada pour des raisons de sécurité en 2014-2015. Et finalement, on apprend que sur 10 200 demandeurs d'asile qui ont été enquêtés par les services secrets, le SCRS, il y en a seulement 7 qui ont été refusés pour des raisons de sécurité. Donc, ça met en perspective un petit peu le gros danger de l'arrivée des réfugiés depuis quelques années. On dit donc que c'est souvent plus des immigrants, des demandes d'immigration régulières où il y a des enquêtes qui sont plus poussées que pour des réfugiés politiques ou des réfugiés comme d'opinion. Donc, voilà, c'est les chiffres qui ont été obtenus. Et c'est sûr qu'il y a eu beaucoup plus de sous de mis là-dedans dans les derniers mois à cause des différents programmes qui ont eu lieu depuis un an. Mais peut-être vous dire, cherchez mon chiffre, excusez-moi, là, je le trouve pas. Enfin, ça m'en va... Voilà. Non, c'est ça. Ah non, ben ça, je suis pas sur la bonne feuille, OK. Ah ah, OK. Donc, excusez-moi. Donc, ça, je vais vous dire qu'en 2014-2015, il y a 276 300 personnes donc, qui ont fait des demandes d'immigration ou de statut de réfugié ou de résidence et seulement 169 individus qui ont été officiellement étiquetés comme dangereux pour le Canada. Donc, tout cet argent-là, toutes ces démarches-là et surtout tout le discours autour qui est mis pour dire qu'il faut mieux surveiller les frontières, faut faire attention pour finalement arriver à des chiffres relativement ridicules, ce qui est une bonne nouvelle, ce qui est bien pour tout le monde, mm-hmm. Mais on espère que ça va circuler ces chiffres-là pour montrer que le danger n'est pas là.
Oui, peut-être lui mettre le budget ailleurs, là, dans les écoles. Écoute, on a une idée de liste. Là,
l'éducation, la santé. Hein,
oui, c'est ça, des choses de même. est-ce que ça conclut ta chronique? Oui, on a réussi à avoir des bonnes nouvelles pareilles.
Oui,
ça a commencé, c'était difficile au début. Là, mais...
J'ai fui dans mes papiers. Donc, désolé pour la confusion à la fin, puis merci à vous deux.
Merci beaucoup, toujours autant intéressant.